VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisco, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Nigeria, au moins 30 soldats nigérians sont toujours portés disparus après l'attaque d'une base militaire dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays, pendant le week-end de Noël. Les détails avec Abdourahmane Dia.
L'attaque a aussi fait 5 morts parmi les soldats nigérians. Des combattants du groupe Boko Haram ont mené un raid sanglant sur la caserne du village de Kanoma, à la frontière avec le Niger, provoquant un long échange de tirs et même l'intervention des forces aériennes. Selon un officier, il n'est pas clair si ces soldats se sont enfuis pendant l'attaque ou s'ils ont été capturés par les combattants. Le chiffre a été confirmé par un membre des milices civiles qui combattent aux côtés de l'armée nigériane dans cette guerre qui ravage la région du lac Tchad depuis 2009. Cette attaque survient alors que le groupe djihadiste, divisé en deux factions adverses, a redoublé de violence ces deux derniers mois et mené des raids, des tueries et des attentats de manière quasi quotidienne depuis le week-end de Noël. Aboubakar Shekau, qui dirige l'une des factions, est apparu mardi dans une vidéo dans laquelle il revendique les récentes attaques dans le nord-est nigérian.
Togo, le président togolais Fornia Singbe a réitéré mercredi soir en présentant ses vœux à la nation sa volonté de dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique et sociale qui agite le pays depuis septembre. Le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques, a-t-il déclaré à la télévision nationale en insistant sur son projet de révision de la Constitution. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui encore, nous sommes capables d'explorer toutes les voies de la concertation et des échanges d'idées, de dépasser les griefs, a-t-il indiqué sans annoncer la date des discussions. C'est la première fois que Fornia Singbe s'adresse directement aux Togolais depuis le début de la crise en septembre. La Guinée équatoriale dit avoir déjoué une tentative de coup d'État. Des affrontements ont opposé mercredi les forces de sécurité de Guinée équatoriale à des mercenaires près des frontières avec le Cameroun et le Gabon. Le pouvoir en place affirme que le coup d'État a été orchestré par des militants de certains partis d'opposition radicale avec le soutien de certaines puissances étrangères sans donner plus de détails. Le président Teodoro Obiang-Nguema avait dénoncé samedi dernier une guerre en préparation contre lui, car, souligne-t-il, et je cite, « ils disent que j'ai passé beaucoup de temps au pouvoir ». Le chef de l'État équato-guinéen est resté vague sur les instigateurs présumés du coup d'État. Afrique toujours, le taux de mortalité lors des opérations chirurgicales est deux fois plus élevé sur le continent africain qu'en moyenne dans le monde. C'est ce qu'affirment des chercheurs dans une étude mettant au jour un fléau dont on parle très rarement, Bagassi Koura.
En théorie, la mortalité pourrait être moins élevée sur le continent qu'ailleurs. Les patients y sont en effet plus jeunes et y subissent des interventions moins lourdes. Mais d'après les auteurs de cette étude parue dans la revue médicale The Lancet, près d'un patient sur cinq en Afrique a des complications après une opération. Et là où existent des chiffres comparables, à savoir dans la chirurgie non urgente, la mortalité atteint 1% sur le continent contre 0,5% dans le monde. L'étude est décrite comme la plus vaste et la plus fouillée sur la chirurgie africaine. Elle a réuni plus de 30 chercheurs qui ont rassemblé des données de 247 hôpitaux dans 25 pays du continent. Ont été suivis les dossiers de 10 885 patients, dont un tiers ont subi une césarienne. Au total, 18,2% des patients opérés ont connu des complications et parmi eux, presque 1 sur 10 en est mort. Pourtant, 4 patients sur 5 étaient considérés à risque faible, sachant leur jeune âge et leur bonne santé.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Éthiopie, le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn promet de libérer les prisonniers politiques et de fermer le centre d'interrogatoire de Maekelawi pour le transformer en musée. Mais il n'a pas précisé le nombre de personnes concernées par cette amnistie. Le pays connaît une crise politique qui a vu certains hauts fonctionnaires démissionner du parti au pouvoir après la récente répression des manifestations et des conflits ethniques meurtriers sur le fond de revendications sécessionnistes. Près de 200 personnes sont mortes lors des troubles en 2015 et 2016, selon une enquête mandatée par le Parlement. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Paris l'expert en questions africaines Roland Marshall.
C'était une décision d'ouverture qu'on attendait depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'elle suffira, mais enfin, c'est un premier geste. Elle traduit, je crois, l'intensité du débat au sein des couches dirigeantes éthiopiennes et le fait que le type de gestion qu'ils ont eu de la sphère politique depuis des années est aujourd'hui remis en cause de façon importante par les mouvements sociaux. Cette remise en cause est en fait autant basée sur l'existence de tensions sociales très fortes qu'une véritable crise à l'intérieur de l'alliance qui a gouverné le pays depuis 1991.
Et comment explique-t-on finalement aussi cette annonce que le Premier ministre a fait concernant le centre d'interrogatoire de Makelaoui, disant qu'il le serait fermé et transformé en musée?
Je crois que le gouvernement essaye de donner des gages d'une ouverture. Bon, ils vont sans doute aller un peu plus loin. Le problème qui est posé, c'est comment est-ce qu'un régime peut continuer à gérer le pays d'une façon aussi verticaliste et aussi autoritaire, alors même que les principaux partis de la coalition sont extrêmement divisés sur leur importance respective les uns par rapport aux autres et également sur le modèle de développement qui doit être suivi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit poursuivre ce modèle entre guillemets à la chinoise, c'est-à-dire d'État développementaliste? Est-ce qu'au contraire, il faut redonner beaucoup plus de sens aux demandes sociales de la population, et c'est-à-dire répartir autrement les fruits de la croissance? Et derrière ça, vous avez des remises en causes qui sont plus radicales, qui sont proprement politiques. Est-ce que les Tigréens, en tous les cas ceux qui sont partie prenante du Front Populaire de Libération de Tigray, qui ont de fait géré l'essentiel de l'appareil sécuritaire et de l'appareil politique, est-ce que ce monopole doit être remis en cause et quels seront les nouveaux partages du pouvoir qui vont avoir lieu à l'intérieur de la coalition et qui permettront de redonner une certaine crédibilité à ces partis politiques et à partir de là, disons, de trouver des compromis.
Roland Marshall, chargé de recherche sur les questions africaines au CNRS à Paris, en France. Actualité hors d'Afrique, le président français Emmanuel Macron a annoncé hier un texte de loi pour lutter contre les fake news sur Internet en période électorale, et ce dans une allusion voilée aux médias publics russes RT et Sputnik. Les précisions de John Lyndon.
Nous allons faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles, a déclaré lors de ses vœux à la presse le chef de l'État français, qui s'en était notamment pris en mai dernier, peu après son élection, aux deux médias publics russes en français, qu'il avait qualifiés d'organes d'influence. M. Macron a également annoncé que les pouvoirs de l'autorité de régulation de l'audiovisuel allaient être accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Le président avait accusé en mai, lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Vladimir Poutine, la chaîne russe RT, qui a lancé sa chaîne de télévision en français en décembre, et l'agence de presse publique russe Sputnik, d'avoir diffusé des contre-vérités infamantes et de la propagande mensongère. Des milliers de documents internes de l'entourage du candidat Macron avaient également été publiés sur les réseaux sociaux, une opération dénoncée comme une tentative de déstabilisation démocratique, comme cela s'est déjà vu aux États-Unis pendant la dernière campagne présidentielle.
Actualité aux États-Unis maintenant, le bras de fer reprend entre la Maison-Blanche et les démocrates sur l'immigration et le budget. Mais l'urgence est de financer l'État fédéral américain pour éviter une paralysie des administrations après le 19 janvier. Les parlementaires ont déjà reporté 3 fois depuis septembre cette date butoir. Les 4 leaders du Congrès, républicains et démocrates, de la Chambre des représentants et du Sénat, se sont rencontrés hier au Capitole avec 2 émissaires de la Maison-Blanche pour tenter de sortir de l'impasse. Et pour terminer, tempête de neige sur toute la côte est des États-Unis, de la Floride au sud jusqu'à la région de la Nouvelle-Angleterre, proche du Canada. Le mauvais temps affecte tout particulièrement la ville de New York, où 8 à 15 cm de neige sont attendus. Cette tempête a déjà conduit à la fermeture de routes dans le nord de la Floride et le sud-est de la Géorgie. La majorité des écoles dans la région de Washington resteront fermées ce jeudi. Merci de votre attention. Une info sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.